marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée à l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle en 1940. Au son de nos archives et des entretiens inédits accordés par les historiens anglais et français Julian Jackson et Olivier Wiewiórka, nous vous proposons deux épisodes documentaires dans lesquels vous allez entendre comment un jeune général de l'armée française, convaincu depuis l'adolescence du rôle éminemment historique qu'il doit jouer pour sauver la France, est devenu de Gaulle. À la fois ambitieux et mesuré, romantique et pragmatique, qui est Charles de Gaulle en 1940 ? Pourquoi décide-t-il de se rebeller et de lancer son appel le 18 juin depuis Londres ? Le jeune général serait-il devenu de Gaulle sans l'aide de Churchill, le Premier ministre britannique ? L'appel du 18 juin, de Gaulle fait l'histoire, un documentaire en deux épisodes à écouter sur RFI et à tout moment en podcast.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé, et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appelle l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
L'appel du 18 juin dit que la France n'a pas perdu la guerre, la France n'a perdu qu'une bataille, qui n'est que le début de ce qui va être une guerre mondiale.
Julian Jackson, biographe de Charles de Gaulle.
De Gaulle, il voyait l'importance de l'Empire français, l'Empire britannique. Il voyait l'importance de l'appui que les Américains éventuellement pourraient donner à la France. C'est un appel, on dit l'appel du 18 juin, c'est un appel. Il appelle aux Français qui sont sur le territoire britannique, des officiers, des ingénieurs, des civils, n'importe, de le rejoindre pour dire que tout n'est pas perdu. L'appel, c'est un message d'espoir. Il termine en disant que la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Donc il utilise déjà ce mot de résistance. Tandis que beaucoup de personnes en France pensaient que tout était terminé. Pour De Gaulle, c'était que le début.
Je dis l'honneur. Car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi.
Mais pour les gens qui l'écoutent, c'est quand même qui est ce De Gaulle? On ne connaît pas. Pendant 4 ans, c'est une voix. Mais je crois qu'en fait, la force, dans un sens, vient justement du fait que les gens ne le connaissaient pas. Je ne dis pas qu'il était inconnu, il était connu par quelques militaires en politique français, mais pour la grande majorité de la population française, on ne le connaissait pas. Et donc, je crois que ça a décuplé, si vous voulez, la force de son discours, parce qu'on pouvait l'imaginer quand on voulait l'imaginer. On créait son propre De Gaulle à partir de cette voix qui traversait la Manche. Et ça donnait, pour les gens qui l'écoutaient, une espèce de lien affectif. On n'avait pas le droit d'écouter le BBC, c'était dangereux. On écoutait en cachette, c'était clandestin. Et donc ça donnait quelque chose de plus fort. Il fallait faire cet effort. Il y avait une espèce de fil affectif entre les auditeurs qui avaient créé leur propre De Gaulle à partir de cette voix qui traversait les Andes, qui traversait la Manche, qui donnait une force. Et déjà, les discours ont beaucoup de force, mais je crois que le contexte, si vous voulez, le fait qu'il fallait inventer le personnage. Je peux donner un exemple. Il y a un écrivain français très célèbre qui s'appelait Léon Werth, qui était anti-pétainiste depuis le début. Et donc, il était dans un petit village du Jura pendant la guerre, et on a le journal qu'il a tenu pendant la guerre. Et il commençait à écouter De Gaulle, et un jour, il écrit dans son journal, j'essaie de m'imaginer De Gaulle. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il a... Je l'imagine portant un monocle, et ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, il essaie d'imaginer la personne. Et pour moi, ça donne plus d'intensité à la relation avec De Gaulle, parce que, justement, on ne le connaissait pas.
De Gaulle, lorsqu'il lance son célèbre appel le 18 juin 1940, n'est pas un total inconnu.
Olivier Vivorquin, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est déjà un général politique, il est quand même sous-secrétaire d'État à la guerre. Il a publié plusieurs ouvrages qui ont été remarqués. C'est un homme qui a aussi eu accès à des responsables importants. Il a travaillé avec Philippe Pétain, il est ministre donc du président du Conseil, Paul Reynaud. L'appel du 18 juin n'est peut-être pas l'acte de naissance, mais peut-être l'acte de baptême. De Gaulle est déjà né un peu avant l'appel du 18 juin. Mais c'est bien entendu l'appel du 18 juin qui va le créer comme homme hors de toutes les séries. C'est vraiment l'appel du 18 juin qui pose le fondement de la France libre, qui va devenir la France combattante. Et effectivement, l'appel du 18 juin est d'une importance cardinale dans la destinée du général De Gaulle.
L'appel du 18 juin prononcé par le général de Gaulle depuis les studios de la BBC à Londres n'a pas été enregistré. C'est celui du 22 juin qui a été conservé. En réalité, de Gaulle écrit des discours tous les jours, mais les Britanniques ne l'autorisent pas à reprendre la parole avant le 22 juin 1940, date de la signature de l'armistice entre le Troisième Reich allemand et les représentants du gouvernement français de Philippe Pétain. Après la débâcle de l'armée française, c'est bien la défaite et la capitulation.
La défaite, en règle générale, apparaît comme une énorme surprise. Personne ne s'attendait à ce que l'armée française soit défaite en quelques 6 semaines. Donc il y a un caractère tout à fait traumatisant, brutal, inattendu, qui va plonger l'ensemble de la France dans une situation de détresse extrêmement profonde. Car c'est une défaite militaire, mais c'est aussi l'effondrement d'un régime, la Troisième République, l'effondrement d'un État. On a à peu près 8 millions de Français sur les routes, donc la France, véritablement, s'effondre. De Gaulle est-il surpris par la défaite? Il y a un côté un peu Cassandre chez De Gaulle, et donc De Gaulle ne s'attendait pas nécessairement à des bonnes surprises. Je pense néanmoins qu'il y a deux choses qui le surprennent, la rapidité de cette défaite, d'une part, et d'autre part, la tournure politique qu'emprunte cette défaite, car l'événement nouveau... C'est que sur les ruines de cette défaite, un homme, le maréchal Pétain, prétend construire un nouveau régime. Et donc, au fond, il tourne la page, Pétain, de la phase militaire ouverte en 1939, alors que de Gaulle entend maintenir ouverte cette page.
Pour de Gaulle, c'est dans un sens l'aboutissement de 50 ans. Il a 50 ans, donc c'est l'aboutissement d'une période et le début d'une nouvelle période. Et c'est un acte de rupture. Oui, c'est un acte de rupture, parce que pour un très jeune général, il vient d'être nommé général il y a quelques semaines, de briser avec tous les chefs militaires, politiques, etc. français, c'est quelque chose. Et de briser avec le maréchal Pétain, qui n'est pas seulement le chef le plus respectable, le plus vénérable, c'est un mythe vivant, Pétain. Et donc, de briser avec Pétain, c'est un acte de désobéissance, bien sûr, une rupture. Et c'est un acte de courage moral. J'y insiste, le courage de ce geste.
L'élément important, c'est de savoir, au fond, si cette rupture a un sens. Et bien entendu, elle a un sens. On a toujours l'impression que de Gaulle est un très grand visionnaire, ce qu'il est à certains égards. Mais on peut dire que la vision que le général de Gaulle a du maréchal Pétain est facilitée par le contact qu'il a entretenu durant l'entre-deux-guerres. Bien entendu, de Gaulle respecte le vainqueur de Verdun, la manière dont il a géré les mutineries, mais de l'autre, le maréchal Pétain est aussi considéré comme un personnage défaitiste, comme quelqu'un qui n'a pas nécessairement une volonté d'acier, meilleur peut-être pour la défense que pour l'attaque. Bref, je pense que de Gaulle n'imagine pas une minute que Philippe Pétain brandisse l'étendard de la révolte, parce qu'il le connaît, parce qu'il le connaît. Ce qui veut dire que la rupture avec Pétain, pour de Gaulle, est relativement facile, me semble-t-il.
C'est donc parce que de Gaulle connaît très bien Pétain, Olivier Vivorca, qu'il est peut-être le seul en France en 1940 à ne pas croire en Pétain ?
C'est l'un des seuls, parce que Pétain n'a pas une image nécessairement unanime. Mais en revanche, ce qu'il y a d'extraordinaire chez de Gaulle, c'est qu'il assume cette rupture. Lui le proclame haut et fort. Et c'est précisément, je crois, parce qu'il ne recherche pas l'accommodement avec Vichy et qu'il ne recherchera jamais cet accommodement avec Vichy, qu'il va avoir d'emblée une position d'une très grande pureté et donc d'une très grande solidité qui va lui permettre d'agréger au fil du temps tous les anti-pétainistes, mais également tous les déçus du pétainisme.
Mais dans un sens, de Gaulle avait déjà beaucoup réfléchi aux qualités d'un chef, d'un vrai chef. C'était une obsession avec de Gaulle dans les années, fin des années 20, des années 30. Son deuxième livre s'appelait « Le fil de l'épée ». Et donc, dans un sens, déjà, il voit que le chef doit pouvoir rompre, désobéir. Il avait déjà dit en 32, c'est quand même assez remarquable. Mais il y a deux autres qualités pour un chef. De Gaulle. Quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui est un intellectuel. Mais il dit que la réflexion seule n'est pas assez. La réflexion doit être accompagnée par des qualités, si vous voulez, morales. Une espèce d'élan, instinct, courage, toutes ces choses. Mais pour lui, l'élan, l'instinct, courage n'est rien sans la réflexion, et la réflexion n'est rien sans le courage. Donc les deux vont ensemble.
La première chose que fait le général de Gaulle lorsqu'il arrive à Londres, c'est de se rendre au 10 Downing Street pour exposer ses intentions au premier ministre britannique Winston Churchill. De Gaulle avait fait bonne impression sur Churchill au cours de leurs trois rencontres précédentes. Mais selon Julian Jackson, Churchill a sans doute donné son accord à de Gaulle pour s'exprimer à la radio sans avoir vraiment compris ce dont il s'agissait.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français, qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
L'honneur et l'intérêt supérieur de la patrie, c'est le combat auquel De Gaulle invite tous les corps de l'armée française déjà postés en Angleterre ou encore en France. Dans cet appel du 22 juin, qui lui a été enregistré par la BBC, à la différence de celui du 18 juin. Et cette notion de l'honneur est fondamentale, Julian Jackson, si on veut bien comprendre l'essence même du départ du jeune général De Gaulle pour Londres.
Oui, l'honneur est fondamental pour De Gaulle. Si on fait les différences entre De Gaulle et Pétain en 40, quelle est la décision de Pétain? C'est de rester en France pour protéger les vies et les intérêts des Français. Et c'était quand même pas absurde, parce qu'il y avait des millions de Français qui étaient vulnérables, qui avaient souffert pendant l'exode, etc. Mais pour De Gaulle, il y a quelque chose qui est plus important que les Français. C'est la France. C'est l'intérêt supérieur de la patrie, c'est l'honneur.
Olivier Vivorquin, est-ce que par ailleurs De Gaulle a une forme de sensibilité au destin tragique des Français qui sont jetés sur les routes? Est-ce qu'il est sensible à la détresse, au désespoir des Français? Est-ce que ça le préoccupe vraiment?
On dit souvent que le général De Gaulle aime la France mais n'aime pas les Français, que de son bureau de Colombey, on voyait un magnifique paysage français, mais avec aucune habitation. Donc l'idée que De Gaulle soit un homme sensible, très sensible à la détresse de ces millions de Français jetés sur les routes, n'est sans doute pas un élément central dans la réflexion du général De Gaulle. Ce qui préoccupe le général De Gaulle, c'est le destin de la France. Et je pense que sans être totalement insensible, bien entendu, au sort de ses compatriotes, c'est quelque chose qui vient après. C'est quand même quelqu'un qui est très dur. Est-ce une insensibilité totale ou est-ce au fond un masque? On sait que De Gaulle, lorsqu'il est à Londres, s'inquiète énormément pour sa famille, puisqu'il est séparé de son épouse et de ses enfants. Il a peur. De Gaulle vouvoie son épouse en public. Lorsqu'il apprend que son épouse et ses enfants sont arrivés à Londres, eh bien, il va embrasser lors des retrouvailles son épouse et son fils Philippe dira que c'est la première fois qu'il a vu ses parents s'embrasser. Donc, on peut peut-être admettre que sous l'écorce rugueuse du chef de guerre et du futur chef de la France libre bat quand même un cœur.
L'armistice est signé par le maréchal Pétain le 22 juin 1940. Le gouvernement quitte la capitale dès le mois suivant dans une atmosphère de panique générale. Le président Albert Lebrun convoque les deux chambres au Grand Casino à Vichy. La ville est choisie pour ses grands hôtels et la modernité de son centrale téléphonique. Elle est située en zone sud, donc en zone libre, tandis que le nord de la France et Paris sont occupés par les Allemands. Dans la salle de l'Opéra, les parlementaires réunis votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain par 570 voix contre 80. C'est un plébiscite. Mais quel est l'enjeu? Que s'est-il passé le 10 juillet 1940 à Vichy?
L'enjeu, c'est de trouver une issue politique à la défaite militaire, ce qui n'était absolument pas obligatoire. En d'autres termes, à partir du moment où les Français déposaient les armes, ils n'étaient pas obligés de changer de régime. C'est ce qui s'est passé en Belgique, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé au Danemark. Bon, donc il n'était absolument pas nécessaire de prononcer l'acte de décès de la Troisième République. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour le maréchal Pétain, la défaite devait être le moyen de construire un ordre nouveau, ce que le régime de Vichy baptisera la Révolution nationale. Donc pour ce faire, il va demander la convocation des deux chambres à Vichy. Donc il y a cette réunion de l'Assemblée nationale du Parlement à Vichy qui va prononcer l'acte de décès de la République et jeter les bases d'un nouveau régime, le régime de Vichy. Donc on enterre la Troisième République et on crée un nouveau régime. Voilà ce qui se passe le 10 juillet 1940 à Vichy.
En juillet 1940, Comment les premiers appels du général de Gaulle à poursuivre le combat depuis Londres peuvent-ils être entendus dans un empire où le maréchal Pétain puise sa légitimité dans sa décision de rester sur le sol français pour protéger ses compatriotes? De Gaulle, lui, a quitté le territoire français pour défendre ce qu'il a appelé plus tard son idée de la France.
Ah, c'est peut-être la phrase la plus célèbre de tous les écrits de Gaulle. C'est la première phrase des mémoires de guerre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Et il continue en fait en disant que pour lui, la France ne pourrait pas être la France si la France n'était pas au premier rang. La France n'est pas la France sans la grandeur. Et il continue en disant que quelquefois, s'il y a une espèce de faillite ou si les choses ne marchent pas, c'est pas la faute de la France, c'est la faute des Français. C'est vraiment fondamental, cette idée presque mystique. Il dit lui-même dans ses pages, la France comme la Madone d'un fresque, comme une princesse de conte de fées. Elle est une personne. Et vraiment, sa relation avec la France était affective, charnelle, quelque
amoureuse.
Chose. Amoureuse, je dirais. Oui, tout à fait. Amoureuse.
C'est son grand amour.
Oui, c'est son grand amour. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans l'histoire de la France. Le grand historien du 19e siècle, Jules Michelet, parlait déjà de la France comme une personne. Mais je crois que personne n'a vécu cette idée de la France avec autant d'intensité que de Gaulle, c'est quand même assez remarquable.
Prétendre que la France cèdre et demeurer la France sous la botte d'Hitler et le sabot de Mussolini, c'est de la sénilité ou bien de la trahison. Et c'est encore de la sénilité ou bien de la trahison que de prétendre que la guerre est une entreprise désespérée. Ceux qui le disent à la France, à supposer qu'ils le disent de bonne foi, prouvent qu'ils n'ont rien compris au monde tel qu'il est.
Au micro de la BBC, De Gaulle exprime son indignation et sa colère à l'égard du maréchal Pétain. Il estime s'attaquer aux héros de la Première Guerre mondiale en toute légitimité, puisqu'il s'est exilé à Londres au nom de l'honneur de la France.
Le monde ne se limite pas aux champs de bataille sur lesquels l'incompréhension de nos chefs nous livra sans moyens à la force mécanique allemande. Le monde comprend une Europe où nos alliés anglais, qui déjà tiennent les mers, et commence à dominer le ciel, se renforce chaque jour. Le monde comprend une Afrique, une Asie, une Amérique, pleine d'immenses possibilités. Oui, l'ennemi a réussi à réduire plusieurs de ses voisins immédiats, mais chaque pas en avant le met devant une tâche plus dure, la France, même partagée. Même pillé, même livré, n'a pas à jouer perdu. Eh bien, puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber brisé, moi, j'ai ramassé le tronçon du glaive.
Dans ce discours du 13 juillet qu'on vient d'écouter, De Gaulle utilise les mots comme traître, trahison, sénilité. Pensez à la force, à la insolence, si vous voulez, de ce jeune général contre le maréchal si respecté. Oui, il faut dire que beaucoup de gens qui n'acceptaient pas l'armistice, qui auraient voulu continuer le combat, étaient choqués par ce ton. Et parmi les premiers résistants, il y en avait beaucoup qui croyaient au maréchal Pétain, qui voulaient résister depuis le début. Je prends un exemple d'un résistant très connu, très célèbre, très important, Henri Frenay, qui était le fondateur du mouvement de combat, un des mouvements les plus importants dans nos zones sud. Et au début, Frenay croyait en Pétain. Il croyait que Pétain était un patriote qui faisait de son mieux et que c'était impossible, inconcevable que Pétain pourrait être vu comme un traître. Donc ça, c'est remarquable. Et ce qui est également remarquable dans cet extrait 13 juillet, c'est qu'en fait, De Gaulle est pédagogue. Il donne des raisons, et j'y insiste. Il parle de l'intérêt supérieur de la patrie, il parle de le bon sens et l'honneur. Donc il y a toujours triptyque, le mot ternaire est très De Gaulle. Mais il y a toujours des raisons pour y croire. Il dit pas simplement « on n'est pas battu », il dit « pourquoi on n'est pas battu ?»
De Gaulle se situe dans une approche militaire. D'abord et avant tout, il considère que la guerre est mondiale, là où effectivement le maréchal Pétain tend plutôt à la considérer comme un affrontement franco-allemand, là où le maréchal Pétain pense, nous sommes en juillet, début juillet, que l'Angleterre va déposer les armes, on n'est pas encore au moment de la bataille d'Angleterre. Le général De Gaulle donc, et c'est l'un de ses caractères visionnaires, comprend que la guerre est mondiale et que le problème des ressources économiques va être fondamental, ce que Pétain ne comprend pas. En revanche, et j'y insiste, on voit bien qu'il n'y a absolument aucune lecture politique de la situation et du régime de Vichy.
Le régime de Vichy, ce n'est plus la République française, c'est l'État français. Un régime autoritaire dirigé par un vieil homme dont le passé militaire glorieux et l'humanité rassurent les Français.
Dans son avenir, pour accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Vos représentants me l'ont donné en votre nom. Ils ont voulu, comme vous et comme moi-même, que l'impuissance de l'État cesse de paralyser la nation. J'ai constitué aussitôt un nouveau gouvernement. 12 ministres se répartiront l'administration du pays. Ils seront assistés par des secrétaires généraux qui dirigeront les principaux services de l'État. Des gouverneurs placés à la tête des grandes provinces françaises. Ainsi, l'administration sera à la fois concentrée et décentralisée. Notre programme est de rendre à la France les forces qu'elle a perdues. Elle ne les retrouvera qu'en suivant les règles simples qui ont de tout temps assuré la vie, la santé, la prospérité des nations.
À 84 ans, Philippe Pétain fait don de sa personne à la France et le 10 juillet 1940, les députés votent les pleins pouvoirs au maréchal dans un élan d'union nationale. Ce vote serait un vote de circonstance auquel même les communistes ont participé.
Vote de circonstance, c'est ce qui a été dit.
Olivier Vivorca.
Je crois néanmoins que, lorsqu'on regarde la suite, c'est-à-dire la manière dont certains parlementaires vont essayer de prêter concours, soutenir le régime de Vichy, ce n'est pas seulement un vote de circonstance. C'est pour une partie des parlementaires un vote d'adhésion. Ils n'essayent pas simplement de liquider la crise militaire, ils croient aussi à la révolution nationale. En d'autres termes, le maréchal Pétain apparaît comme un homme providentiel qui va pouvoir nettoyer les écuries d'Augias. C'est quoi les écuries d'Augias? C'est refaire les institutions, avec l'idée que le pouvoir exécutif a été trop fort, que les chambres disposaient de trop de pouvoir, peut-être liquider tous ces métèques, ces juifs qui ont pris trop de place dans la France de l'avant-guerre, peut-être supprimer cette lutte des classes qui a conduit à l'abomination que représente le Front populaire et qui dressait les patrons contre les ouvriers alors qu'ils devraient travailler dans une joyeuse ambiance tous ensemble. Donc on le voit, il y a véritablement autour du programme pétainiste un intérêt de la part du personnel politique. Mais, et c'est le problème, on peut dire que chacun projette sur Pétain ses aspirations, ses désirs. Mais au fur et à mesure que le régime de Vichy avance et qu'il va décevoir certaines attentes, eh bien ces parlementaires, comme une partie des Français, vont se désolidariser au fil du temps du régime de Vichy et fusent dans une moindre mesure de son chef, le maréchal Pétain.
À présent que la France leur a été livrée, l'ennemi et ses complices font tout pour la maintenir à terre et de répandre à satiété le refrain d'une France décadente et coupable qui n'a qu'à se rouler dans la poussière de la servitude suivant les objurgations
du père la défaite de Vichy. Il y a là une sinistre manœuvre à laquelle les bons Français refusent de se prêter. La guerre contre l'Allemagne a commencé en 1914. Le traité de Versailles n'avait en fait rien terminé. En réalité, le monde fait la guerre de 30 ans pour ou contre la domination universelle du germanisme. À l'heure qu'il est, l'ennemi et les traîtres de Vichy sont en lutte ouverte contre le peuple français. Pour parvenir à lui imposer leurs exigences, il leur faut employer le plus atroce système d'oppression que le pays ait jamais connu dans son histoire. Mais leur censure de terreur, leurs mensonges de propagande, leur justice rendue dans les caves, les bâillons qu'ils enfoncent dans les bouches, les chaînes qu'ils lient autour des bras, les bâches qu'ils jettent sur les morts, n'empêchent pas le monde de savoir où sont les volontés de la France. Et quand les démocraties devront refaire le monde sur les bases sacrées de la liberté humaine, de la souveraineté des peuples et de la coopération des nations, alors on pourra voir aussi ce qu'est et ce que vaut la France. Français, nous avons autant que personne droit à la fierté nationale. La France, avec nous.
Depuis Londres, Charles de Gaulle se présente, lui, comme l'homme providentiel. Pour lui, ce n'est pas Pétain l'homme providentiel, mais c'est bien de Gaulle. J'aimerais que vous puissiez réagir à ce discours que vous connaissez bien, Olivier Viviorca. Comment faut-il l'entendre ?
Alors, vous remarquerez que ce qu'il y a de fascinant dans ce discours, c'est qu'il ne parle absolument pas de l'aspect politique. Il ne parle que de la guerre. Et il faut bien se rappeler que le général de Gaulle est un démocrate. Donc, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause l'attachement du général de Gaulle à la démocratie. Donc, le général de Gaulle ne commence pas à dire « Le maréchal Pétain a commis un crime, il a liquidé la Troisième République, le maréchal Pétain n'est pas un démocrate ». On n'entend rien de ce type dans ce discours. Pour le général de Gaulle, le crime majeur de Philippe Pétain, c'est l'armistice. C'est pas le régime de Vichy. Donc, le crime, c'est d'avoir considéré que la défaite était consommée. Et à partir du moment où la défaite est consommée, la France vaincue n'aura plus le droit de parler à la table des vainqueurs lorsque le Troisième Reich aura été battu. C'est ça le crime.
Déterminé, le jeune général de Gaulle, que personne ne connaît, prononce inlassablement ses appels à la désobéissance et à la résistance depuis Londres. Est-il déjà un homme politique ou encore un militaire ? Qui parle au micro de la BBC ?
Qui parle ? Est-ce que c'est un militaire ou un politique ? C'est à la fois un militaire et un politique. C'est un militaire en train de devenir un politique.
Julian Jackson.
Et c'est très important parce que quand de Gaulle vient à Londres, il pense moins en militaire qu'en politique. C'est quelque chose qu'il a dit plus tard, assumer la France. Et ça semble quelquefois un peu mégalomane. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui est inconnu, comment est-ce qu'il peut prétendre à assumer la France. C'était quelque chose de très clair. Selon lui, un gouvernement qui signe un armistice, qui accepte l'occupation d'une grande partie du pays, n'est pas libre, n'est pas indépendant, et donc n'a pas de légitimité. Donc, quand de Gaulle arrive à Londres, il veut être quelqu'un, même si ça semble un peu insensé, parler pour les intérêts supérieurs de la France. Donc, pour lui, il n'y a pas de gouvernement français qui compte, parce qu'on ne peut pas être un gouvernement si on est dans un pays occupé. Donc, il faut que quelqu'un soit le gouvernement de la France. Et au début, cette prétention n'était pas acceptée par les Britanniques, même s'il avait été reconnu par Churchill. Mais c'était déjà son idée. Dans sa tête, en juin 40, s'il avait pu, s'il avait été appuyé, il aurait déjà fait une espèce de gouvernement en exil. Mais c'était impensable en 40 parce qu'il y avait très peu de gens autour de lui. Il avait essayé même de créer un comité national, mais ça n'a pas marché en 40. Mais déjà, c'était dans sa tête. Et j'insiste, c'était pas un acte de folie. C'était tout à fait le contraire. C'était un acte réfléchi, puisque le gouvernement soi-disant gouvernement de la France ne parle pas pour les intérêts de la France parce que c'est un gouvernement qui est sous la coupe des Allemands, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire. Et c'est moi à Londres.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi.
Lui, Charles de Gaulle, entre dans l'histoire, et lui seul le sait. Depuis son plus jeune âge, il se destine à sauver la France, fasciné par l'idée de se sacrifier, horrifié par l'idée de mourir sans avoir combattu. Influencé par la philosophie de l'action, chère à Bergson, de Gaulle semble clair sur son sens de la stratégie militaire. En revanche, on se demande quelles peuvent être ses convictions en politique.
Cette question sur les idées politiques de De Gaulle, sur le fond de sa pensée politique, est très très importante, parce qu'il faut dire que beaucoup de gens de gauche se méfiaient beaucoup de ce général. On se méfiait déjà des militaires en politique. Et sur De Gaulle, on ne savait rien. On a écouté ensemble plusieurs extraits des discours de De Gaulle en juin et juillet 40. Mais le mot « république » n'y paraît pas. Il n'y a pas de mention de la République. Je ne dis pas qu'il dit quoi que ce soit contre la République, mais il évite de parler de la République.
Alors, je pense bien entendu que le général de Gaulle est républicain, mais qu'il n'y a pas un attachement charnel pour la République. De Gaulle vient d'un milieu de droite, relativement conservateur. C'est un milieu qui, en revanche, n'a jamais versé dans l'anti-dreyfusisme. Donc, il ne s'agit pas du tout de présenter le général de Gaulle comme issu d'un milieu ultra-réactionnaire. Mais il n'y a pas un très grand attachement sentimental et charnel à la République. D'ailleurs, le général de Gaulle va choisir la devise militaire, honneur et patrie, et non la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, comme devise pour la France libre.
Il ne parle pas de la République.
Julian Jackson.
Donc, on se pose la question, quelles sont ses idées politiques? Qu'est-ce qu'il pense de la République? Et c'est très compliqué. Ce n'est qu'en novembre 41 que pour la première fois, il utilise le mot « république » et « liberté, égalité, fraternité ». C'est parce que il a évolué sur l'influence de la résistance, etc. Mais pour moi, De Gaulle est ouvert sur ces questions. Et si je voulais prendre une influence sur sa pensée, je ne prendrais pas Charles Maurras. Je prendrai un autre écrivain nationaliste de la fin du 19e siècle, Maurice Barrès. Et la différence entre Maurice Barrès et Charles Maurras, c'est que Barrès acceptait toute l'histoire de la France. Il acceptait l'Ancien Régime, la Révolution, la période après. Tandis que Maurras, il fallait refaire l'histoire. Charles Maurras, qui était le fondateur du mouvement Action Française. Action Française était anti-républicain à 100%, antisémite, antidémocratique. Maurras disait que la France, la République, est forcément mauvaise. Pour De Gaulle, ce qui comptait était la France. Et il était dans un sens, même avant 40, a ouvert sur l'idée du régime qui pourrait en fait mieux défendre les intérêts de la France. Donc pour moi, ça c'est troisième personne qui compte peut-être le plus dans la formation politique et intellectuelle de De Gaulle, c'est Charles Péguy. Péguy qui n'est pas très connu de nos jours, mais Péguy était un intellectuel, un dreyfusard passionné, un républicain, un socialiste, mais qui s'est converti dans un sens avant la Première Guerre mondiale au catholicisme, au nationalisme, à la patrie, etc. Et donc, ce qui est fascinant avec Péguy, c'est qu'il est républicain, socialiste, Dreyfusard, catholique, patriote, une espèce de synthèse de toutes les traditions de la France. Et je crois que c'est ça une clé de De Gaulle, c'est de surmonter les divisions de droite et de gauche, cette idée qui est fondamentale de De Gaulle avec cette idée de rassemblement.
De Gaulle pense déjà qu'il va falloir rassembler.
Olivier Vivorca.
On peut quand même aussi, peut-être, subodorer que le général De Gaulle est prudent. En d'autres termes, il ne s'avance pas dans le sauvetage de la République. La première raison, c'est que la République est ultra impopulaire. Vous avez un anti-parlementarisme à l'été 1940 colossal, qui marque même d'ailleurs beaucoup de mouvements de résistance, hein, qui considèrent que la République a failli, qu'elle a failli parce qu'elle n'a pas su préparer la guerre, qu'elle a failli parce qu'elle n'a pas su la gagner. Et d'autre part, De Gaulle pense déjà, et c'est là où il voit loin, pense déjà qu'il va falloir rassembler. Et à partir du moment où il faut rassembler, il ne faut peut-être pas parler de politique. Mais De Gaulle ne jette pas du tout l'anathème, par exemple, sur les communistes, qui sont quand même, à l'époque, liés par le pacte germano-soviétique. Vous avez quand même des appels à la fraternisation hein, dans l'humanité, qui disent, voilà, pourquoi on fraterniserait pas entre les ouvriers et ces soldats allemands, dont beaucoup ont peut-être été des ouvriers et peut-être aussi des ouvriers communistes. De Gaulle pourrait taper sur les communistes. Il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il doit rassembler. Et là aussi, de ce point de vue-là, il voit loin.
Si le général de Gaulle n'est pas seulement un militaire très courageux, si le général de Gaulle est déjà un homme politique très visionnaire, serait-il néanmoins devenu de Gaulle sans Churchill ? Julian Jackson.
Reprenons ce qui s'est passé. De Gaulle arrive, débarque à Londres le 17 juin. Pourquoi est-ce qu'il quitte la France ? Il quitte la France parce que le chef du nouveau gouvernement français, le maréchal Pétain, va signer un armistice. Donc De Gaulle ne peut pas accepter ça. Donc il arrive à Londres. Mais il est personne. Et comment est-ce qu'il peut agir, ce général qui arrive à Londres ? Sa seule façon d'agir, c'est le micro du BBC, parce qu'il doit trouver un moyen de parler. Et c'est grâce à Churchill qui, par une espèce d'impulsivité, un coup de foudre romantique presque, je dirais, lui donne le droit de parler au BBC. Sans Churchill, je crois que De Gaulle n'existerait pas, n'aurait pas existé. Je suis anglais, c'est facile pour moi de le dire.
C'est rude.
C'est rude, oui, oui. Je veux insulter personne.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.
Des années après la guerre, Sir Winston Churchill est honoré à Paris par De Gaulle. Il reçoit la Croix de la Libération le 6 novembre 1958.
I'm going to speak English today.
Aujourd'hui, je m'adresserai à vous en anglais. Il est vrai que j'ai souvent prononcé des discours en français, mais c'était en temps de guerre et je préfère vous épargner les rudes épreuves de jadis. Je suis particulièrement heureux que ce soit mon vieux compagnon et ami, le général de Gaulle, qui me fasse aujourd'hui cet honneur. Il restera à jamais le symbole de l'âme de la France et de sa fermeté inébranlable en face de l'adversité. Je me souviens lui avoir dit lors des sombres jours de 1940 « Voici le connétable de France ». C'est un titre qu'il a bien mérité depuis. Je crois pouvoir dire que j'ai toujours été un ami de la France. Il est vrai qu'au cours de toutes les entreprises et des graves événements auxquels nous avons été mêlés lors de ce dernier demi-siècle, votre grande nation et votre vaillant peuple ont occupé dans mes pensées et dans mon affection une place privilégiée. Nul ne sait ce que nous réserve l'avenir, mais il est certain que si la Grande-Bretagne et la France, qui sont depuis si longtemps à l'avant-garde de la civilisation occidentale, restent unis avec leurs empires, leurs amis américains et leurs autres alliés, Alors tous les espoirs nous sont permis. Je vous remercie pour tout l'honneur que vous m'avez fait.
Vive la France!
Mais c'est le micro du BBC qui fait que tout est possible grâce à la radio. Et il faut dire que Churchill ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Je dis dans mon livre, il est un peu le Frankenstein qui a créé un monstre qui lui échappe. Parce que Churchill n'avait aucune idée ce qui était exactement dans la tête de De Gaulle. Il ne savait pas que De Gaulle se voyait déjà comme un chef d'État, un chef de gouvernement. Pour Churchill, De Gaulle était un homme courageux, admirable. Il a dit à De Gaulle, je vous reconnais seul parmi les Français libres. Mais il ne voyait pas De Gaulle comme la France. Mais le problème, c'est qu'avec la radio, De Gaulle crée ce lien avec la population française. Et donc, il devient légitime par l'acceptation de la population française et éventuellement de la résistance qu'il parle pour la France. Et donc, il devient incontournable. Et puis, quand Churchill en a marre de De Gaulle, et ça arrive très souvent, il y a des querelles homériques entre les deux, c'est trop tard. Parce que De Gaulle a su créer une base en France, et même quand Churchill est tenté quelquefois de se débarrasser de De Gaulle, après il ne peut plus, parce qu'avec la radio, il a donné à De Gaulle une arme qu'il peut retourner contre son maître, Churchill.
Ainsi s'achève le premier épisode de l'appel du 18 juin, De Gaulle fait l'histoire. Un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Steven Hesley avec la complicité de Sophie Janin. Prise de son, Richard Ifono. Recherche d'archives, Vanadis Feuille. Je remercie vivement les historiens Julian Jackson et Olivier Vivorca et vous recommande leur livre De Gaulle, une certaine idée de la France de Julian Jackson. C'est aux éditions du Seuil. Ainsi que l'histoire de la résistance aux édition Perrin pour Olivier Vieviorca. Réécoutez, exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.